Bonjour, ici Marc. Bienvenue à l'épisode 93 du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, le début de la quatrième partie du livre de Lark & Rose, La superstition la plus dangereuse. Si vous venez de découvrir le podcast, ce livre aide à se défaire de l'endoctrinement qu'on reçoit qui nous maintient en esclavage sans qu'on s'en aperçoive. Oui, en esclavage, je n'exagère pas, comme je pense que vous constaterez en écoutant. Le début du livre est à l'épisode 50. Voici le chapitre d'aujourd'hui. Quatrième partie. La vie sans superstition. La solution. Presque tout le monde peut constater au moins quelques-uns des problèmes qu'il y a avec le gouvernement sous lequel il ou elle vit, qu'il s'agisse de corruption, de guerre, de redistribution socialiste, d'intrusion par l'État policier ou d'autres oppressions. Et nombreux sont ceux qui cherchent désespérément une solution à ces problèmes. Ils votent donc pour tel ou tel candidat, soutiennent tel ou tel mouvement ou parti politique, font pression pour ou contre telle ou telle législation et finissent presque toujours par être déçus des résultats. Ils peuvent facilement identifier divers problèmes et s'en plaindre, mais une solution réelle leur échappe toujours. La raison pour laquelle ils sont toujours déçus est que le problème ne réside pas dans les personnes appelées gouvernement. Il réside dans l'esprit de leurs victimes. On aura beau modifier le gouvernement de toutes les façons imaginables, ça ne fera rien pour résoudre un problème qui ne vient pas du gouvernement. L'électeur insatisfait ne se rend pas compte que c'est sa propre vision de la réalité, sa propre croyance en l'autorité, qui est à l'origine de la plupart des problèmes de la société. Il pense qu'une classe dirigeante est un élément naturel, nécessaire et bénéfique de la société humaine, et tous ses efforts se concentrent donc sur les querelles pour savoir qui devrait être responsable et à quoi devrait servir le pouvoir du gouvernement. Lorsqu'il pense à des solutions, il pense à l'intérieur du cadre de l'étatisme. Par conséquent, il est impuissant dès le départ. Supplier les maîtres d'être gentils ou demander un nouveau maître ne mène jamais à la liberté. Au contraire, de tels comportements sont de bons indicateurs que la personne n'est même pas libre à l'intérieur de son propre esprit. Et une personne dont l'esprit n'est pas libre ne sera jamais libre dans son corps. Les gens sont tellement habitués à s'engager dans les rituels culturels collectivement appelés « politiques », vote, lobbying, pétition, campagne, etc., que toute suggestion de ne pas prendre la peine de participer à ces efforts inutiles et impuissants revient, à leurs yeux, à suggérer qu'ils ne fassent rien. Parce qu'ils considèrent que le vote, les pleurnicheries et quémander des faveurs constituent l'ensemble des possibilités qui s'offrent à eux en matière de gouvernement, ils sont incapables de comprendre quoi que ce soit qui puisse réellement procurer la liberté. Ainsi, lorsqu'un volontariste, le mot anglais pour quelqu'un qui veut le consentement dans tous les rapports humains, ou un anarchiste explique à la fois le problème et la façon de le résoudre, mais sans présenter un nouveau candidat pour lequel voter, un nouveau parti politique à soutenir, ou un nouveau mouvement ou une nouvelle campagne à soutenir, en d'autres termes, sans proposer quoi que ce soit qui coïncide avec la superstition du gouvernement et de l'autorité, l'étatiste moyen se plaindra qu'aucune solution n'a été proposée. De son point de vue, quiconque ne joue pas le jeu de la politique, selon les règles établies par la classe dirigeante, ne fait rien. Il ou elle déclare avec enthousiasme « il faut participer ». Ces gens ne se rendent pas compte que participer au jeu créé et contrôlé par les tyrans, c'est ne rien faire, du moins rien d'utile. En vérité, plutôt qu'il soit nécessaire qu'un événement se produise ou qu'une chose particulière soit faite, la vraie solution, la seule solution au problème impliquant le gouvernement, consiste à ne pas faire certaines choses et que certaines choses ne se produisent pas. La solution du problème gouvernement ne consiste pas à faire quelque chose, mais à s'abstenir de faire persister le problème. Cessez de prôner l'agression contre vos voisins. Cessez de vous engager dans des rituels qui excusent le déclenchement de la violence et qui renforcent l'idée que certaines personnes ont le droit de gouverner. Cessez de penser, de parler et d'agir d'une manière qui renforce le mythe selon lequel les gens normaux devraient être et doivent être soumis à un maître et devraient obéir à ce maître plutôt que de suivre leur propre conscience. Lorsque les gens cesseront de se prosterner devant l'autel du gouvernement, de jouer les jeux des tyrans, de respecter des règles arbitraires rédigées par des mégalomanes, le problème disparaîtra de lui-même. Puisque l'autorité n'existe qu'en imagination, il n'est pas nécessaire de la renverser, ni de la rejeter par un vote, ni de lui apporter des réformes. Il est seulement nécessaire que les gens cessent d'imaginer quelque chose qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. Si les gens cessaient de laisser une superstition irrationnelle déformer leur vision de ce qui se passe, leurs actions s'amélioreraient immédiatement et de façon spectaculaire. La plupart des agressions qui sont aujourd'hui commises au nom de l'autorité cesseraient. Personne ne donnerait d'ordre, n'exécuterait d'ordre ou ne se sentirait obligé d'obéir à des ordres, à moins qu'il soit clair que les actions visées sont justifiées par la situation et non par la prétendue autorité de la personne qui donne l'ordre. Cela suffirait à éliminer la grande majorité des vols, des extorsions, des intimidations, des harcèlements, des coercitions, des terrorismes, des agressions et des meurtres que les êtres humains commettent aujourd'hui les uns contre les autres. Lorsque le peuple ne reconnaît et n'accepte aucun maître, il n'en a aucun. En fin de compte, la servitude des gens et les moyens d'y échapper existent entièrement dans leur propre esprit. La société humaine n'a pas besoin qu'on lui ajoute quoi que ce soit pour résoudre la plupart de ses problèmes. Pas plus qu'elle n'a besoin de la mise en place d'un nouveau système ou de la mise en œuvre d'un nouveau plan directeur. Au lieu de cela, elle a besoin qu'on supprime une chose omniprésente et extrêmement destructrice, la croyance en l'autorité et en le gouvernement. Ce qui fera que ça fonctionne n'est ni un plan central, ni un programme autoritaire, mais l'interaction volontaire mutuelle de nombreux individus, chacun servant ses propres valeurs et suivant sa propre conscience. Bien sûr, ceci ne correspond pas du tout à la façon de penser à laquelle presque tout le monde a été formé, que la société a besoin d'un plan directeur et de dirigeants pour le faire appliquer. En réalité, ce dont la société a le plus besoin, c'est d'une absence totale de plan directeur et d'une absence totale de dirigeants autoritaires auxquels le peuple doit remettre son jugement et son libre arbitre. La solution n'est pas d'ajouter quelque chose de nouveau à la société, mais simplement de comprendre et de dissiper la superstition la plus dangereuse. La réalité, c'est l'anarchie. De nombreuses personnes sont devenues anarchistes, prônant une société sans classe dirigeante, après être arrivées à la conclusion que sans gouvernement, la société serait plus prospère et plus pacifique et jouirait de plus de justice et de sécurité. Cependant, cela revient à ce qu'un individu décide, après une analyse approfondie, que Noël fonctionnerait mieux sans le Père Noël. Mais si le Père Noël n'existe pas, il est inutile de débattre de la question de savoir s'il est nécessaire pour que Noël fonctionne. Si Noël fonctionne, c'est déjà sans le Père Noël. Il en va de même pour le débat habituel entre gouvernement et anarchie. Le gouvernement n'existe pas, il n'a jamais existé et n'existera jamais, ce qui peut être prouvé en utilisant une logique qui ne dépend pas du tout des croyances morales d'un individu. Pour résumer rapidement, les gens ne peuvent pas déléguer des droits qu'ils n'ont pas, ce qui rend impossible pour quiconque d'acquérir le droit de gouverner, autorité. Les gens ne peuvent pas modifier la moralité, ce qui fait que les lois du gouvernement sont dépourvues de toute autorité inhérente. Par conséquent, l'autorité, le droit de gouverner, ne peut logiquement pas exister. Le concept lui-même est autocontradictoire, comme le concept de guerrier de la paix. Un être humain ne peut pas avoir de droit surhumain, et donc personne ne peut avoir le droit inhérent de gouverner. Une personne ne peut être moralement obligée d'ignorer son propre jugement moral. Par conséquent, personne ne peut avoir l'obligation inhérente d'obéir à autrui. Ces deux ingrédients, le droit de commander du dirigeant et l'obligation d'obéir du sujet, sont le cœur et l'âme du concept d'autorité, sans lequel il ne peut exister. Et sans autorité, il n'y a pas de gouvernement. Si le contrôle que le gang appelé « gouvernement » exerce sur les autres n'a pas de légitimité, ce n'est pas un gouvernement. Ces ordres ne sont pas des lois. Ces exécutants ne sont pas des forces de l'ordre. Encore une fois, sans le droit de gouverner et sans l'obligation morale simultanée de la part des masses d'obéir, l'organisation appelée « gouvernement » n'est rien d'autre qu'une bande de voleurs et d'assassins. Le gouvernement est une impossibilité. On ne peut tout simplement pas l'appeler à la rescousse, pas plus qu'on ne peut faire intervenir le Père Noël. Et insister sur le fait qu'il est nécessaire, alors qu'il n'existe pas et ne peut pas exister, ne change rien à ce fait, pas plus que prédire le malheur si nous n'avons pas cette entité mythique avec nous. Soutenir que les êtres humains ont besoin d'un dirigeant légitime, ayant le droit moral de contrôler par la force tous les autres, et auquel tous les autres sont obligés d'obéir, ne change rien au fait qu'une telle chose n'existe pas et ne peut pas exister. Ainsi, le but de cette dernière partie du livre n'est pas simplement de soutenir que la société fonctionnerait mieux sans la fiction appelée « gouvernement », mais de présenter au lecteur les façons dont les gens percevront la réalité différemment, penseront différemment, se comporteront différemment et interagiront différemment, très différemment même, une fois qu'ils auront abandonné la superstition la plus dangereuse, la croyance en l'autorité. L'anarchie, c'est-à-dire l'absence de gouvernement, est ce qui est. C'est ce qui a toujours été et sera toujours. Lorsque les gens accepteront cette vérité et cesseront d'halluciner une créature appelée autorité, ils cesseront de se comporter de la manière irrationnelle et destructrice actuelle. Presque tout le monde, du moins au départ, a du mal à penser clairement à un tel concept. Parce que tous les politiciens et tous les gouvernements proposent constamment des solutions qui traitent de la manière dont la société sera organisée, gérée et contrôlée par un système centralisé et autoritaire, la plupart des gens ne savent même pas comment traiter mentalement l'idée d'une absence totale de tout système imposé par la force. Ils se posent machinalement des questions telles que « comment va-t-on faire pour avoir des routes ?» ou « comment allons-nous nous défendre ?» La vérité est que personne ne peut savoir comment tout fonctionnera ou ce qui se passera. Les gens peuvent faire des suggestions sur la manière dont les choses devraient fonctionner ou des prédictions sur la manière dont les choses pourraient fonctionner, mais personne ne peut savoir quelle est la meilleure manière de faire fonctionner les choses. Malgré l'énorme quantité d'incertitudes que cela crée, historiquement, il est clair que vivre en liberté nous réussit bien mieux que n'importe quelle solution centralisée. Cependant, les étatistes ont été formés à être terrifiés par ce type de société infiniment plus complexe, où il n'y a pas de plan directeur, mais des millions de plans individuels, interagissant les uns avec les autres d'innombrables façons différentes. Pour eux, c'est le chaos. Et d'une certaine manière, ça l'est, en ce sens qu'il n'y a pas d'idée directrice unique ni de contrôle centralisé. Cela ne signifie cependant pas que les gens ne peuvent pas conclure d'accord, travailler ensemble, coopérer et trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Au contraire, cela signifie que chaque personne envisagera la vie comme un adulte au lieu de renoncer à son libre arbitre et à sa responsabilité pour suivre aveuglément l'agenda de quelqu'un d'autre. Soit dit en passant, même sans la superstition de l'autorité, il y aurait encore des leaders et des suiveurs. Mais il s'agirait généralement d'un véritable leadership où une personne montre l'exemple en faisant preuve d'un niveau d'intelligence, de compassion ou de courage qui inspire les autres à se comporter de la même manière. Il s'agit là d'un phénomène très différent de ce que l'on appelle aujourd'hui le leadership. Lorsque l'on parle de dirigeants de pays, il s'agit de personnes qui contrôlent de manière coercitive des millions d'autres personnes. L'expression « leader du monde libre », lorsqu'il s'agit d'un représentant du gouvernement, est inexacte et contradictoire. Les hommes politiques ne donnent pas l'exemple. Au contraire, ils donnent l'exemple de la malhonnêteté, de l'escroquerie, du narcissisme et de la soif de pouvoir. Ils disent ce que les gens veulent entendre afin de les dominer et de les contrôler. Appeler de telles personnes dirigeants est aussi ridicule que d'appeler des voleurs producteurs ou des meurtriers guérisseurs. En l'absence de croyance en un gouvernement, de vrais dirigeants pourraient émerger, des personnes qui ne revendiquent aucun droit à gouverner, aucun droit à forcer quiconque à les suivre, mais dont les vertus et les actions sont reconnues par les autres comme méritant d'être imitées. Personne ne peut prédire et personne ne contrôlera ce qui se passera dans un monde sans le mythe du gouvernement. Ce qui suit n'est donc pas une explication complète de la manière dont chaque élément de la société humaine fonctionnera une fois que le mythe de l'autorité aura disparu. Il s'agit plutôt d'une introduction à quelques-unes des façons dont les êtres humains pourraient cesser de laisser une superstition irrationnelle déformer leurs pensées et pervertir leur comportement, et commencer à se comporter comme des êtres rationnels et libres, guidés par leur propre volonté et leur jugement individuel. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous et laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît, ou là où vous préférez, car ça rend le podcast plus visible et donc ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la quatrième partie de « La superstition la plus dangereuse », la peur de la liberté.